Rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Stephen Elsley.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe et heureux de vous retrouver après une trop longue absence. Bienvenue à Blois. Nous avons posé nos micros au bord de la Loire, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire, trois jours durant. Le rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est un peu le festival de Cannes des historiens, entre le château qui fait la renommée de la ville et la halle aux grains qui concentre bon nombre de rendez-vous. Des centaines d'historiens et des milliers de passionnés par l'histoire déambulent de conférences en table ronde. Cette année, le thème des rendez-vous, c'est partir. Alors il y a évidemment de multiples façons de partir. À leur manière, les réfugiés qui souvent, au péril de leur vie, quittent des continents de guerre et de misère, nous le rappellent au quotidien. Mais vu d'Europe, partir nous renvoie aussi au Brexit. Les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne pour une multitude de raisons économiques, politiques et sociétales, mais peut-être aussi parce qu'ils ne se sentaient pas suffisamment européens. C'est un paradoxe, mais 60 ans de construction européenne n'ont pas permis de créer un sentiment européen unanimement partagé. Pourtant, un Portugais, un Letton ou un Irlandais ont plus de points en commun qu'ils ne l'imaginent généralement. Alors face à des Européens qui sont nombreux et même de plus en plus nombreux à douter des bienfaits de l'Europe, la question de l'identité européenne, du qu'est-ce que nous avons en commun, se pose désormais de manière urgente. À mes côtés pour en débattre, un écrivain et deux historiens. Bonjour Catherine Gousseff.
Bonjour.
Vous êtes historienne, directrice du centre Marx Bloch à Berlin. C'est quoi ce centre Marx Bloch et qui était Marx Bloch ?
Marx Bloch était donc un très grand historien et le centre qui porte son nom est un centre franco-allemand qui a été créé au lendemain de la chute du mur de Berlin et qui rassemble donc des chercheurs français et allemands, spécialistes de sciences humaines et sociales, ainsi que de jeunes doctorants. C'est aussi bien un centre de recherche qu'un centre de formation à la recherche.
Nedim Gürsey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain turc. Votre dernier livre s'appelle Le fils du capitaine. Il est paru au Seuil. Vous n'arrêtez pas de voyager entre Istanbul et Paris.
Oui, je suis partagé entre deux villes, deux langues d'ailleurs. Et puis, Paris étant mon port d'attache, Istanbul, disons, est devenu ma source d'inspiration.
Rainer Benig, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire, co-auteur du manuel d'histoire franco-allemand aux éditions Nathan pour l'édition française et Clette pour l'édition allemande. On va y revenir, ça a été une grande aventure. J'ai oublié de dire que, Catherine Gousseff, vous avez publié, vous aussi, un dernier livre qui s'appelle « Échanger les peuples, le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques entre 1944 et 1947 ». C'est été publié chez Fayard. Alors, Nedim Gürsey, j'ai envie de vous poser la première question. Quand on regarde l'Europe d'Istanbul, perçoit-on un ensemble défini par une identité européenne commune ou au contraire, voit-on une mosaïque de pays avec chacun sa langue, sa culture, sa tradition, ses traditions et son mode de vie?
Quand on regarde l'Europe à partir d'Istanbul, on a l'impression qu'on est dans un bateau, mais la rive s'éloigne de plus en plus, car la Turquie, malheureusement, semble ne s'intéresser plus à cette perspective européenne, alors que cette perspective-là est très importante, notamment pour le progrès de la démocratie dans mon pays. Quant à l'identité européenne, certes, l'héritage de chrétien est une composante importante de cette identité, mais pour moi, l'Europe, c'est aussi des valeurs. C'est la liberté d'expression, c'est la laïcité, c'est l'héritage du siècle des Lumières. Eh bien, toutes ces valeurs me semblent très importantes, notamment par rapport à la candidature de la Turquie à l'Union européenne, car je voudrais rappeler ici que mon pays est toujours candidat à l'Union européenne, mais il respecte de moins en moins ces valeurs-là, ces valeurs démocratiques de l'Europe.
Et notamment depuis les derniers mois et depuis l'été, notamment Alors, on va pas faire une émission sur la Turquie, mais évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Catherine Gousset, vous qui connaissez bien le monde russe et plus généralement le monde centre-européen, est-ce que vous diriez que la perception de l'Europe est la même à l'Ouest et à l'Est?
Tout dépend ce qu'on considère comme l'Est. Si on considère l'Est comme étant la Russie et l'ancien espace soviétique, évidemment, il y a une perception d'étrangeté, d'extériorité de l'Europe, tandis que dans la partie centre-européenne des anciens pays de l'Est, il y a eu évidemment ce sentiment avec la chute des régimes communistes qu'on assistait à un retour à l'histoire et évidemment un retour à l'Europe, avec une revendication très forte justement et une attente très forte de l'Europe depuis le début des années 1990. Sachant qu'évidemment, les choses ont beaucoup évolué depuis.
Et la perception de l'Europe, on le voit bien sur, par exemple, le thème des réfugiés, elle est un peu différente à l'Est et à l'Ouest, par exemple.
Oui, elle est très différente à l'Est et à l'Ouest. Et en même temps, on peut dire, si on prend justement la question des réfugiés, que malheureusement, les constats peuvent être relativement similaires sur la crainte qu'inspirent avant tout les réfugiés et le réflexe de repli qu'il suscite, comme on le voit quand même beaucoup à travers notamment l'actualité des élections politiques en Europe.
Reiner Bendik, Nedim Kürsel évoquait à l'instant ce qui faisait le socle européen, la liberté, la démocratie et le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, on est évidemment dans l'histoire. C'est aujourd'hui ce qui vous paraît être le fondement de ce qui fait que quand un Européen rencontre un Européen, il a quand même quelque chose en commun, même si c'est un Allemand, un Français ou un Finlandais.
Oui, certainement. Le siècle des Lumières est une base de l'identité européenne. Mais quand même, attention, quand on dit siècle de lumière en France, on a tout de suite à l'esprit Voltaire et la laïcité. Tout à l'heure, on a entendu que la laïcité serait un fondement de la démocratie. Eh bien, c'est vrai pour la France, mais pour la Pologne, c'est pas du tout vrai. Et pour l'Allemagne non plus, bien qu'on ait une séparation de l'État et de l'Église, mais cette séparation fonctionne autrement qu'en France. Alors, si on parle de l'Europe, de l'identité européenne, on ne peut pas dire il y a telle et telle valeur. Non, il y a telle et telle valeur dans la pluralité, dans une approche plurielle. Donc la liberté, par exemple, l'acceptation de la religion dans l'espace public en France sera, quand je regarde avec mes yeux allemands là-dessus, je dirais, bon, la liberté n'existe pas vraiment.
Ah bon?
Dans mes cours, j'ai aucun problème d'enseigner des jeunes femmes qui portent un foulard. Tandis qu'en France, c'est impossible dans l'école laïque. Alors, avec mes conceptions allemandes, je dirais, quand même, la liberté, c'est un peu problématique. Quand j'ai ma perspective allemande, alors l'Europe, c'est justement de savoir relativiser ses propres points de vue nationaux. C'est ça l'essentiel. C'est cette approche qui fait que nous sommes capables de regarder l'autre, non pas avec nos yeux, avec nos modes de perception, mais d'être capables de prendre la perspective de l'autre. Et c'est ça la grande aventure du manuel franco-allemand d'histoire. Donc connaître les perspectives de l'autre et de le comprendre mieux.
Alors le manuel d'histoire commun franco-allemand, ça a été une grande aventure. Ça a été d'abord une décision politique prise par qui, Reiner?
Pas tellement politique. Alors c'était durant le 40e anniversaire du traité de l'Élysée, le Parlement franco-allemand des jeunes a demandé qu'il y ait un manuel commun. Et donc les instances politiques, qui étaient très contents à l'époque, c'était Chirac et Schröder, donc à l'époque le couple franco-allemand marchait très très bien, et on a...
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui il ne marche pas.
Aujourd'hui, il y a... Oui, en ce moment, le couple franco-allemand ne marche pas comme il a marché... il y a 10 ans.
Alors, fin de la parenthèse. Alors donc, il a fallu rédiger ce manuel franco-allemand, on s'est rendu compte que Charlemagne, Napoléon, Hitler,
aucun problème. Ah. C'est ça le fait le plus étonnant qui va donner une première réponse à votre question sur l'identité européenne. On n'avait vraiment aucun problème sur les faits historiques, sur les guerres franco-allemandes du 19e siècle, sur la Grande Guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale. Là-dessus, on n'a eu aucun problème. On a eu des problèmes d'abord quand on a parlé de didactique. Alors, qu'est-ce que c'est un bon enseignement de l'histoire? Et là, on a eu vraiment des très graves problèmes. Quel est le rôle du professeur? Quel est le rôle des élèves? Et comment est-ce qu'ils travaillent ensemble? Quelles questions doit-on poser? Et là, nous sommes dans le culturel, dans nos traditions d'enseignants. Et deuxième problème, la religion. Dès qu'on a parlé de religion, les Français nous ont dit « Alors attention, ce que vous faites, c'est du catéchisme ». Et les Allemands étaient tout à fait étonnés de cette réponse-là, parce que pour nous, la religion est déjà le terme « fait religieux ». C'est intraduisible en allemand. On parle de religion, la religion en histoire. Alors il faut en parler. Mais les Français étaient très réticents à cet aspect-là. Par exemple, Voltaire, oui, philosophe des Lumières. Mais Lessing, lui aussi, est un philosophe des Lumières. Et il a été théologue, il a fait des études de théologie. Vous voyez, on a donc des buts communs, la liberté, mais on a des approches très différentes.
Alors, vous nous racontez, Rainer Bendit, que finalement, ce manuel commun franco-allemand, c'était un long fleuve tranquille, sauf sur les questions didactiques. J'ai quand même l'impression, moi, quand j'étais petit français, Charlemagne, c'était un empereur français, c'était pas un empereur allemand. Napoléon, il est plutôt glorifié dans les manuels avec lesquels j'ai appris l'histoire, alors que je suis pas sûr qu'en Allemagne, il en soit ainsi.
Mais
Catherine Gousset a le droit de répondre.
Quand même, c'est Napoléon qui a, dans le sud-ouest et l'ouest d'Allemagne, fait appliquer le code Napoléon. Il est très important pour le développement de l'état de droit en Allemagne. Mais oui, bien sûr, le code Napoléon a été en vigueur jusqu'à la fin du 19e siècle en Allemagne. Mais nous, pas
Catherine Gousset, j'aimerais entendre votre point de vue sur cette approche peut-être un peu différente des grands hommes qui ont écrit l'histoire de l'Europe et notamment l'histoire de la France et de l'Allemagne.
Je rejoindrai quand même Rainer sur l'idée qu'effectivement, je pense qu'il y a en Allemagne un écho très positif de Napoléon. Sur la, me vient pas exactement à l'esprit une différence d'appréciation aujourd'hui qui serait fondamentale dans l'approche historique. Disons, de l'Europe, je pense qu'il y a quand même un assez fort consensus existant, en tous les cas, en ce qui concerne la France et l'Allemagne.
Alors, le malheur, quand même, de ce manuel commun franco-allemand, c'est qu'il a été très peu utilisé.
Oui, c'est le problème des programmes. Et là, donc, les politiciens, vous savez, l'Allemagne est un pays fédéral, donc il y a 16 Länder, et ces Länder, c'est difficilement imaginable en France, ces Länder sont des États souverains en ce qui concerne l'éducation. Donc, il y a 16 programmes d'histoire, et actuellement, ces programmes s'éloignent de plus en plus parce qu'à cause des réformes, ce qui a entraîné le choc PISA, donc ces enquêtes PISA, autour de l'année 2000, a montré que les élèves allemands perdent quand même de vitesse par rapport aux autres Européens. Et cela a entraîné une folie de réformes en Allemagne qui a fait que les programmes s'éloignent de plus en plus.
Alors, Nedim Gürsel, la question qui est posée de manière sous-jacente par Catherine Gousset et Rainer Bendit, c'est est-ce qu'on peut construire une identité commune si on n'a pas un minimum d'histoire en commun?
Écoutez, je pense que l'identité, ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça d'avance une fois pour toutes. Elle se constitue une identité dans le temps et avec l'apport de plusieurs éléments. En ce qui concerne l'Europe, à travers la diversité de tous ces pays européens, il y a tout de même des éléments communs. D'abord, un héritage historique lourd de conflits, mais commun. Et puis après, on a parlé du siècle des Lumières à juste titre, mais le XXe siècle a été catastrophique en ce qui concerne les conflits, notamment entre l'Allemagne et la France. Donc,
d'où la construction européenne.
Mais déjà, c'est déjà une grande réussite que sur le continent, il n'y a plus de conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, et ça, c'est dû au projet européen.
Et ça, on l'oublie un peu trop rapidement.
Je crois qu'on l'oublie un peu trop rapidement. Donc, il y a cet aspect politique, il y a l'aspect, bien sûr, culturel. Mais je dirais un mot sur l'islam, puisqu'il est d'actualité, et l'islam fait partie aujourd'hui intégrante aussi, qu'on le veuille ou non, de la culture européenne, non pas en tant qu'héritage, mais en tant que que conjoncture actuelle, puisqu'il y a en France en tout cas plus de 4 millions de gens qui sont des musulmans et qui revendiquent cette identité-là et qui posent problème.
On va y reparler un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission, mais je voulais vous faire réagir les uns les autres sur est-ce qu'il n'y a pas eu justement dans la foulée de cette construction européenne, peut-être un excès d'optimisme de la part des initiateurs, avec l'idée on va créer un espace de paix où l'état de droit sera garanti, qui va générer de la prospérité, ce qui a été l'histoire de l'Europe, en tout cas jusqu'à ces dernières années. Et c'est à cette condition de vie assez facile que finalement, une identité, un esprit commun va naturellement naître. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être un excès d'optimisme de la part des pionniers de l'Europe qu'on n'a pas besoin de rappeler ici, Catherine Gousseff?
Un excès d'optimisme, en tous les cas, quand même, la grande idée justement de créer une Europe de la paix, elle a été remise en cause, elle a été mise à l'épreuve plutôt par les faits. Et si on peut dire qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu de guerre entre États en Europe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe quand même.
Bien sûr,
et évidemment, l'épreuve des guerres yougoslaves a été, je pense, quand même, dans la conscience européenne, dans l'attente politique de l'Europe, le constat d'un très gros échec. Hein. Échec à pouvoir parler d'une seule voix pour, justement, essayer de surmonter ce conflit, de le régler aussi rapidement que possible. Ça a été le premier, je pense, la première grande brèche dans l'idée d'une Europe élargie, d'une Europe qui justement pouvait enfin prétendre à couvrir le vieux continent.
Alors, à contrario, Nedim Gürsey, vous voulez réagir?
Moi, j'ai été témoin oculaire de ce drame bosniaque. J'ai même écrit un livre là-dessus, Le retour dans les Balkans, puisque pendant la guerre, j'étais plusieurs fois à Sarajevo. Si ces pays issus de la Yougoslavie avait pu être intégré avant dans l'Union européenne, il n'y aurait pas eu de conflit.
C'est ce que
c'est vrai que l'Europe n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire pour empêcher la guerre, mais en même temps, aujourd'hui, par exemple, la Yougoslavie de Tito n'existe plus. Il y a des États nationaux et qui sont en train d'accomplir leur processus d'intégration dans l'Europe. La Slovénie est déjà dans l'Europe, la Croatie aussi, etc. Donc voilà, et l'Europe sera ça. C'est un outil pour la paix.
Reiner Bendik.
Ben oui, voilà, quand on parle de la guerre de la Yougoslavie, il faut voir la fin. La Slovénie, la Croatie sont membres de l'Union, même la Serbie veut y entrer.
Tous les pays de l'ex-Yougoslavie souhaitent rejoindre l'Union européenne.
Quand même, c'est une histoire de succès. Parce que pour nous, aujourd'hui, la paix entre États est devenue normale. C'est une normalité. Mais il y a 70 ans, cela aurait été impossible pour moi, en tant qu'Allemand, d'être ici. Et cela, il faut se mettre à l'esprit. Ce progrès-là. Alors, c'est pourquoi je suis si sceptique face à cette idée philosophique ou globale d'identité européenne. Mais non, l'Europe se fait en faisant l'expérience de l'Europe. Donc il faut faire en sorte que les jeunes puissent voyager, puissent fréquenter les universités de l'étranger. C'est pourquoi cette idée de donner à toute jeune une carte Interrail dès qu'il a 18 ans, c'est une idée formidable. C'est cela qu'il faut faire. Et alors, on va faire la connaissance des autres, des positions des autres qui, peut-être, peut sembler un peu bizarre, mais dès qu'on parle aux gens, dès qu'on voit les autres, dès qu'on se mélange avec eux, bah, c'est ça l'Europe. Donc c'est vivre ensemble dans la pluralité.
Alors on peut aussi rappeler l'idée d'un Erasmus pour les apprentis, car il fonctionne assez bien pour les étudiants, même si de fait très peu d'étudiants bénéficient du système Erasmus, mais c'est tout de même un début. Donc on va faire une pause avec, Reiner Bendik, sur cette petite note d'optimisme. On va faire une pause, le temps de prendre connaissance des derniers développements de l'actualité. On va se retrouver dans 3 minutes très exactement sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. À tout de suite.
Rediffusion.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel,
Stephen Elsley.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes à Blois, sur les bords de la Loire, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire, et nous nous interrogeons sur l'identité européenne, autrement dit, sur ce que nous avons en commun du nord au sud et de l'est à l'ouest de l'Europe. Autrement dit encore, qu'est-ce qu'être européen en 2016? Je vous représente les invités qui ont bien voulu prendre place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Catherine Gousseff, historienne, directrice du centre Marco Bloch à Berlin. Son dernier livre, Échanger les peuples, le déplacement des minorités aux confins polono-soviétiques de 1944 à 1947 chez Fayard. Nedim Gürsel, écrivain, son dernier livre, c'est un roman, Le fils du capitaine, il est paru au Seuil. Et Rainer Bendig, il est professeur d'histoire et co-auteur du manuel d'histoire commun franco-allemand. Et on en a longuement parlé dans la première partie. Il est formidable, mais il a été très peu utilisé. Alors, avant de reprendre notre débat, je vous propose de faire un détour par la rédaction de Courrier International à Paris. Bonjour, Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Vous avez été interpellé à Courrier International par la réflexion d'un écrivain allemand d'origine bulgare, il s'appelle Ilya Troyanov, pour qui l'idée même d'identité, qu'elle soit nationale ou européenne, n'existe tout simplement pas.
C'est ça, parce que lui, il est convaincu qu'il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre, pas plus d'identité européenne que d'identité nationale. Son idée, qui est assez originale, c'est de penser que l'État-nation est une construction totalement artificielle et que l'identité nationale elle-même se refuse à toute définition intelligente, comme il dit. Bref, pour lui, vouloir définir une identité nationale, c'est quasiment se rendre ridicule.
Alors c'est vrai que pour Ilya Troyanov, l'identité nationale, qu'elle existe ou pas, elle se réfère quand même à l'univers culturel. Il voit deux conceptions de la culture.
D'une part, il voit une conception de la culture qu'il qualifie, lui, de pétrifiée. La culture serait un temple fait d'un héritage de coutumes et de règles posées sur des fondements rigides. Et lui, il oppose à cela une autre vision, la sienne, qui perçoit la culture comme un mouvement vivant, fait de fluidité, de circulation, de convergence, d'échange, de toute une créativité très riche.
En conséquence, Ilya Troyanov récuse l'idée d'une culture dominante, car pour lui, l'identité, c'est forcément la culture.
Son idée centrale à Troyanov, c'est il n'y a pas d'identité européenne, mais il y a des identités européennes, au pluriel. Et il faut les laisser s'exprimer dans cet espace culturel commun qu'est l'Europe.
C'est ce qu'il appelle le simple bon sens.
Oui, parce qu'il dit, bon, faut reconnaître tout simplement ce qu'on vit et y mettre son bon sens. Ce qu'on vit, c'est des histoires, une Europe déchirée et des déchirures qui se fondent sur l'histoire. Il y a une histoire impériale pour les uns, il y a une histoire de colonisés pour les autres, il y a des clivages hérités de la guerre froide. Ce sont des faits au-delà desquels on ne peut rien concevoir. Lui, il dit, Troyanov, reconnaître les multiples contradictions qui traversent l'Europe et les Européens relève du vécu et du bon sens. Voilà. Et rien n'est tragique. L'Europe n'a pas d'identité, mais elle a des identités et elle a de l'avenir dans cet espace culturel commun et ouvert.
Merci Daniel Renon, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. On retiendra, et c'est quand même positif, que l'Europe a un avenir. Alors, pendant que Daniel Renon nous parlait de la pensée de Ilya Troyanov, Rainer Bendig n'a pas arrêté d'acquiescer en levant le pouce, en souriant. Voilà, c'est tout à fait de ce que vous pensiez, c'est-à-dire
oui, ça, c'est ça.
L'identité européenne n'existe pas, et heureusement.
Oui, je dirais oui, heureusement, parce que quand on parle de l'identité européenne, on pense tout de suite à ces identités nationales du 19e siècle, qui nous a apporté que de mal, car toutes les guerres du 19e siècle, du 20e siècle, sont en quelque sorte les résultats des identités nationales exagérées. Alors, le mot clé, c'est pluriel, d'accepter ce qu'on a discuté tout à l'heure, la liberté au pluriel, ce qui est un aspect de liberté religieuse en France est exactement le contraire en Pologne. Voilà, il faut faire en sorte que des jeunes, aussi des adultes, ait conscience de ces faits-là. Et voilà l'identité européenne.
Alors, Nadine Gourcelle, on est maintenant au XXIe siècle, hein, même si Rainer Benedict aime faire référence au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle, parce que certains pensent quand même tout de même qu'il existe une identité européenne, entre l'identité européenne et l'identité occidentale? Est-ce que c'est tout à fait la même chose?
Istanbul, par exemple. Je pense que non. En tout cas, moi, je suis assez d'accord pour dire que le mot identité doit être pluriel. Cela dit, je viens d'un pays qui a été fondé sur les décombres d'un empire pluriethnique et multinational, à savoir la République de Turquie, un État qui a pris comme modèle un peu l'État jacobin. Donc, État-nation me dit encore quelque chose, alors que la Turquie actuellement traverse une crise et on a vu que ça marche pas. Il y a le problème kurde à résoudre, il y a d'autres identités, bien sûr. Mais en même temps, en tant qu'écrivain, c'est aussi grâce un peu à cette idée de l'identité nationale que je peux m'exprimer aujourd'hui, c'est-à-dire dans une langue nationale qui est ma langue maternelle, qui est le turc et qui me permet quand même d'écrire mes romans, mes récits, alors que ce n'était peut-être pas le cas à l'époque ottomane, car l'intelligentsia ottomane utilisait une sorte de sabir, un peu d'arabe, un peu de persan, un peu de turc, et ça faisait pas vraiment une langue littéraire.
Et c'était pas facile. C'était pas facile à traduire, peut-être.
Donc, en ce qui concerne aussi l'État national, je crois que la France est aussi a réussi. C'est-à-dire, en France, il y a une identité nationale forte, sans trop de problèmes. Avec des références, peut-être aussi il y a quelques régionalismes, etc., mais je ne pense pas que l'État-nation soit complètement dépassé. Peut-être dans certaines aires géographiques, peut-être dans certaines régions, mais pas sur le plan global. Je ne le crois pas.
Catherine Gousset, vous vouliez réagir?
Je voulais réagir à ce qui vient d'être dit sur la France. C'est vrai que la France a une identité nationale forte, mais je pense que l'histoire de la France dans l'Europe est une histoire très spécifique. Elle est très spécifique par le fait que finalement le territoire qui est aujourd'hui la France est un territoire ancien, que contrairement à la majorité des pays d'Europe, les frontières de la France sont des frontières très anciennes. Et donc il y a cette continuité historique qui distingue certainement la France de la plupart des États européens. Et on pourrait décliner sous de multiples aspects cette spécificité. Et je pense, puisqu'on est quand même dans le thème de partir, je pense qu'une des grandes spécificités de la France dans l'histoire européenne, c'est que c'est un pays où il y a eu quasiment pas d'émigration. Et que si on prend, par exemple, le 19e siècle et l'histoire des grandes migrations transatlantiques qui font partie de l'histoire européenne, qui ont touché la majorité des grands pays européens comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, la France est quasiment absente de cette histoire. Et donc on peut dire, oui, la France a une identité forte, mais je crois que c'est très spécifique dans l'histoire européenne en raison justement de cette continuité, de cette stabilité, de l'importance des racines en France qui la distingue encore une fois de l'histoire de l'Europe en dehors de la France.
Alors pour se sentir européen, est-ce qu'il ne faut pas devenir un voyageur et changer de continent lorsqu'on est aux États-Unis, en Chine, en Inde ou en Afrique? La différence entre un Finlandais, un Espagnol et un Français, elle s'estompe quand même terriblement. Catherine Gousset.
En tous les cas, je sais que justement, en songeant au titre que vous avez donné à votre émission et votre sollicitation, je me suis demandé finalement dans quelle situation je dis que je suis européenne. Eh bien, en y réfléchissant, je crois que la seule fois où j'ai vraiment eu l'occasion de le dire à répétition, c'est quand j'ai fait un grand voyage en Argentine. Et à l'époque, bon, je suis française, je vivais à Berlin. Et donc, je trouvais ça un peu compliqué d'expliquer ma situation. Et pour moi, c'était évident de dire je suis européenne. Et de la même manière, je suis très frappée, ayant une longue expérience comme juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, donc ayant entendu beaucoup de récits de réfugiés, de voir beaucoup de personnes se présenter à travers une identité continentale. Et je pense en particulier aux Africains, beaucoup d'Africains qui arrivent en disant « chez moi en Afrique, chez nous en Afrique ». comme si c'était leur identité, alors que je suis absolument convaincue qu'évidemment un Congolais qui se promène ailleurs en Afrique dirait « je suis Congolais » et non pas « je suis Africain ».
Rainer Benedict, alors je sais bien que l'identité européenne n'existe pas vraiment pour vous, mais tout de même, lorsqu'on voyage... Est-ce que vous n'avez pas ressenti ce même sentiment qu'a vécu Catherine Gousseff?
Il y a 3 ans, j'ai fait une présentation du manuel franco-allemand au Bangladesh. Et là, je fais la même...
Ça, c'est une aventure.
Oui, c'était vraiment une aventure et j'ai fait la même expérience. C'est vraiment cette vue de l'extérieur. En effet, l'Europe fait un tout. Oui, c'est vrai, avec nos valeurs. Mais à l'intérieur de l'Europe, on a quand même des points de vue différents qu'on doit connaître pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais vu de l'extérieur, en effet, on est sur un îlot où les gens sont très très heureux, apparemment, quand on regarde de l'extérieur. Oui, mais notre perspective de l'intérieur, et j'ai parlé de cette perspective-là, pour que nous puissions continuer à vivre en paix et en solidarité, exige, à mon avis, que nous connaissons plus la façon de penser, la façon d'agir, aussi les valeurs nationales des autres. Car vous avez tout à fait raison, l'État national constitue l'Europe. On ne peut pas abolir nos États parce qu'il y a toute une histoire derrière, toute une façon de penser et d'agir. Mais il faut être conscient de cela. Et dès qu'on est conscient de ces traditions divergentes, Europe devient une entreprise fascinante.
Alors pourquoi c'est si difficile de se sentir européen lorsqu'on est en Europe?
Parce que c'est pas difficile. Moi, j'ai aucune difficulté à me sentir européenne en Europe.
Nedim Gürsel, seriez-vous un Européen d'origine turque?
Ah oui, moi, volontiers. Quand je voyage en Europe, je me sens européen, mais parce que j'ai aussi la nationalité française qui me permet de voyager en Europe sans problème. Il y a encore quelques années, pour aller à la foire du livre à Francfort avec mon passeport turc, c'était pas possible. Il fallait que je demande un visa. Donc, du point de vue de la Turquie, sur cette question de libre circulation, il n'y a pas eu un grand progrès. Depuis longtemps, j'habite Paris, où j'ai mon travail au CNRS. Je me sens pas français tout à fait, mais un peu parisien tout de même. Et être parisien, pour moi, c'est aussi être européen. C'est Montaigne qui disait, lui qui a été maire de Bordeaux à une époque, que Paris avait fait de lui un Français. Et Paris n'a pas fait, pas encore de moi, un Français,
mais, vous y
mais un Européen.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Blois, au rendez-vous de l'histoire, avec cette interrogation. Qu'est-ce qu'être européen aujourd'hui en 2016? Est-ce qu'il existe une façon de voir le monde de la même façon? Est-ce qu'il existe une façon de partager un certain nombre de choses en commun? Nous sommes avec Nedim Gürsel, écrivain turc, mais vivant en France, avec Rainer Benedict, professeur d'histoire en Allemagne, avec Catherine Gousseff, historienne et directrice du centre Marc Bloch. Alors, Nedim Gürsel, vous aviez évoqué le fait que aujourd'hui, l'identité européenne, elle est évidemment catholique, chrétienne aussi, mais qu'elle devient petit à petit aussi musulmane. Est-ce que dans cette identité européenne qui se construit évidemment au jour le jour, l'idée d'un islam un peu rampant ne contribue pas à rétrécir l'identité que les Européens ont d'eux-mêmes?
Dans ce contexte, justement, la candidature de mon pays était très importante. Malheureusement, la Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, mais un pays musulman comme la Turquie, respectant les valeurs démocratiques et membre entier de l'Union européenne...
Ce que l'on a longtemps cru qu'il allait devenir.
Voilà, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Mais l'apport d'un pays qui soit musulman et en même temps qui respecte les valeurs dont j'ai parlé au début de notre émission, c'est ces valeurs...
Qu'on peut répéter.
Oui, c'est-à-dire l'état de droit, surtout en ce moment, pour nous autres, les Turcs, c'est un concept très important parce qu'il n'y a plus l'état de droit en Turquie à l'heure actuelle. La liberté, les libertés, disons, démocratiques, la liberté d'expression, la laïcité.
La liberté de la presse, bien sûr.
La liberté de la presse. Et puis, le marché, je crois, le libéralisme aussi fait partie aujourd'hui intégrante des valeurs européennes. Le mur de Berlin s'est effondré et l'Europe a rejoint disons, ses racines à l'Est.
Alors, c'est effectivement une question. Est-ce que, à un moment, l'Europe n'a pas cherché à construire simplement un marché en le perfectionnant de plus en plus, et que l'idée d'une construction politique, plus politique, plus culturelle, s'est un peu évanouie? Est-ce que ça n'a pas contribué à perturber un petit peu l'image que les Européens avaient d'eux-mêmes? Reinhard Bendix.
Justement, c'est le poids de nos histoires nationales qui sont là à mettre en avant. Tout à l'heure, vous avez dit, en voyageant en Europe, vous vous sentez parfaitement européenne. Oui, d'accord. Mais quand j'enseigne l'histoire, par exemple, dans des classes en France, je me sens terriblement allemand. Quand on parle, par exemple, des monuments aux morts, des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, en France, c'est évident que ce sont des monuments patriotiques qui ne glorifient nullement la guerre, mais qui glorifient l'action patriotique. Tandis que quand je travaille avec des élèves allemands sur les monuments aux morts allemands...
D'abord, il n'y en a pas.
Il y en a encore, des années 20. Et mes élèves sont toujours choqués par ces monuments-là. C'est la glorification de l'effort militaire, de la bravure militaire. Et avec ces images en tête, mes élèves, parfois moi aussi, je regarde évidemment les monuments aux morts français. Et donc, souvent, très souvent, mes élèves font une sorte de court-circuit en disant... Ah voilà, ces Français-là, ce sont des nationalistes, des chauvins, quand ils ont des tels monuments. Alors il faut faire un effort d'explication pour dire non, non, attention, c'est vrai dans le contexte allemand, parce que nous, en Allemagne, c'est difficile d'avoir des rapports positifs à notre histoire avant 45. Tandis qu'en France, non. Quand on parle des exploits militaires de l'armée française, c'est plutôt des actions de libération et non pas de domination des autres. Voilà un aspect où nos traditions nationales sont lourdes et on doit les expliquer. C'est cela est Europe. Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur la pluralité. Vu de l'extérieur, évidemment, ces différences-là ne comptent pas. Mais à l'intérieur, on peut... vraiment causer des malentendus. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai insisté tellement sur la didactique.
Catherine Gousseff, vous qui avez un point de vue français, mais vu d'Allemagne, cette identité qui se rétrécit avec cette inquiétude d'une islamisation rampante de la société et donc le rejet des étrangers. Et évidemment, la situation en Allemagne, elle est particulièrement intéressante avec les portes ouvertes d'Angela Merkel en 2015 et puis les difficultés au quotidien en 2016. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ?
Alors, la première chose que j'aimerais dire quand même, c'est que justement, je pense qu'en Allemagne, on ne voit pas les choses du tout de la même manière qu'en France. En tous les cas, quand en France, par exemple, on parle de radicalisation, on a immédiatement en tête le problème de l'islam radical, hein, comme une sorte d'obsession. Je crois qu'en Allemagne, la première vraie question qui est posée aujourd'hui et qui est évidemment la source de multiples inquiétudes et d'un très grand débat, c'est celle de la radicalisation politique avec la montée très soudaine de l'extrême droite en Allemagne.
Et c'est la vraie partie qui s'appelle Alternative pour l'Allemagne, AfD.
Oui, l'AfD, exactement. Et je pense donc que les Allemands ont malgré tout, avant tout, cette préoccupation. Et il faut savoir que justement, l'Allemagne qui est un État laïque, bien sûr, mais qui quand même accorde une place assez importante aux religions, a un point de vue beaucoup moins, passionné, d'une certaine façon, sur la question de l'islam. Et je peux dire, par exemple, vivant à Berlin, on vient de construire à Berlin, enfin, assez récemment, l'une des plus grandes mosquées, je crois, hein, qui existe en Europe. Et l'islam est une réalité inscrite dans le paysage allemand, dans le paysage urbain, avec quand même la présence en Allemagne d'une immigration turque très très importante qui a quelque part justement inscrit l'islam dans la réalité sociale de l'Allemagne. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a quand même une très grande différence dans l'appréhension justement de la question de l'islam en France et en Allemagne.
Nedim Gürsel, cette différence entre la France et l'Allemagne sur la question de l'islam, vous la ressentez, vous qui connaissez aussi très bien l'Allemagne ?
Oui, j'ai séjourné aussi à Berlin pendant plus d'un an. Je connais cette ville qui m'est chère, où il y a une communauté turque importante, notamment dans le quartier de Kreuzberg. Il y a une différence, mais en même temps, l'islam radical pose un problème à toutes les démocraties, pas seulement aux pays européens. Alors, C'est pour cela que j'ai prononcé plusieurs fois le mot laïcité, car d'abord, je ne crois pas que l'islam, modéré ou pas, soit compatible avec la démocratie. Il faut séparer les choses. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la laïcité. Je sais que l'Allemagne et la France ne voient pas du même œil le concept de laïcité dans leur pratique, aussi dans le regard que ces deux pays portent sur la laïcité. Il y a des divergences, mais ça reste quand même très important. Alors l'islam, si l'islam est respectueux de la laïcité, bien sûr qu'il aura sa place, comme les autres religions monothéistes. Mais il y a quand même un problème.
Il y a un point d'interrogation.
Moi, je refuse la langue de bois qui consiste à dire chez les intellectuels d'origine musulmane « Oui, mais c'est des voyous, ils n'ont rien à faire avec l'islam, ceux qui ont tué les caricaturistes de Charlie ou ceux qui ont tiré sur les gens innocents. Oui, mais ceux qui ont tué les meilleurs dessinateurs de France, on dit qu'ils ont vengé le prophète. » Je travaille en ce moment justement sur la perception de Mohammed en Occident depuis le Moyen-Âge jusqu'aujourd'hui. Et on voit comment la construction de l'image négative donc du prophète de l'islam évolue. Nous parlions tout à l'heure de Voltaire qui a écrit une tragédie où il considère que le prophète est un fanatique, est un imposteur, etc. Mais après Lamartine, par exemple, le grand poète français a écrit un livre sur Mohammed où il dit des choses tout à fait intéressantes et positives sur l'islam. Donc il y a eu une évolution. Et malheureusement, là, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe, il y a le risque d'une régression. Et notre tâche à nous semble difficile, c'est-à-dire les chercheurs, les intellectuels, disons d'origine musulmane, c'est pour cela que je considère que les valeurs sont importantes, la liberté d'expression, la laïcité.
Est-ce que dans cette identité européenne qui s'ajoute, comme vous l'avez expliqué, à toutes les autres identités et les transforme, est-ce qu'il faudra ajouter une strate musulmane?
Bien sûr, et pour cela la religion doit être intégrée dans nos vies publiques. Vous savez, la religion est une discipline enseignée au collège, au lycée, aux écoles en Allemagne. Mais seulement la religion chrétienne. Il y a déjà quelques pays, dont le mien, la Basse-Saxe, où on forme, par l'État, à l'université, des professeurs de l'islam qui vont enseigner l'islam au collège, au lycée, aux écoles. Pour que justement, on puisse intégrer cette communauté religieuse dans notre État national. Alors ma réponse serait pas la laïcité à la française, mais bien une intégration des gens qui ont une autre religion numériquement importante, pour qu'ils se sentent comme nombre de la société allemande. Alors il faut la faire un effort d'intégration, faire en sorte qu'un élève qui est musulman peut avoir une formation religieuse comme les chrétiens, à l'école, au lycée, au collège. Et ça serait la liberté, la pluralité européenne pour moi.
D'où l'importance de l'apprentissage de l'histoire dans les collèges et les lycées. Et là, vous êtes forcément tous d'accord, Catherine Gousseff, Rainer Bendick, Nedim Gürsel. Est-ce que ce n'est pas une urgence d'apprendre un petit peu l'histoire de l'autre?
Oui, mais Nedim Gürsel. J'ai quand même un mot à dire là-dessus. Ayant écrit des romans historiques, je trouve que j'ai écrit un roman qui s'appelle « Le roman du conquérant », où il est question de la prise de Constantinople en 1453. Aujourd'hui, en Turquie, on célèbre avec grande pompe la conquête de la ville d'Istanbul dans un pays qui est candidat à l'Europe en mettant l'accent sur le passé glorieux des Ottomans. C'est inadmissible. Donc, tout dépend de la manière dont on enseigne l'histoire, et il y a l'instrumentalisation politique de l'enseignement de l'histoire. Le 29 mai dernier, quand j'ai vu notre président avec ses portraits partout, au moment de la célébration de la prise de Constantinople par les Turcs, j'ai eu l'impression que ce n'est pas Mehmet II qui a conquis Istanbul, mais c'est le président Erdogan qui l'a conquis.
On arrive tout doucement au terme de cette émission. Est-ce que finalement, ce ne sont pas les réfugiés qui prennent tant de risques pour venir en Europe qui perçoivent le mieux cette identité européenne, comme vous l'avez souligné, Nadim Gürsel, un espace de prospérité, bien sûr, mais surtout un espace de paix, un espace de liberté. C'est quand même peut-être ça, les fondamentaux de l'Europe qu'il faut rappeler et sans cesse rappeler. Catherine Gousseff.
Oui, absolument, mais on est quand même justement aujourd'hui dans une situation qui est très contradictoire, puisqu'il y a peut-être de la part de ces réfugiés cet appel à la liberté de l'Europe, et en même temps, pour beaucoup d'entre eux, cette liberté leur est interdite, l'accès à l'Europe leur est interdite. Donc finalement, les valeurs que défend l'Europe sont mises à l'épreuve. Avec justement la crise des réfugiés. Je me souviens d'un collègue démographe qui posait, à mon avis, très très bien la question, François Errand, sur cette nouveauté, si on peut dire, depuis plus d'un an, et qui disait finalement, il s'agit de comprendre comment on est passé d'une Europe qui a dû faire face à la crise des réfugiés à des réfugiés qui font face à la crise de l'Europe. Et c'est vraiment ça la question, je pense.
Merci à tous les trois, Nadim Gürsel, Catherine Gousseff, Rainer Bennig, d'avoir été au carrefour de l'Europe, réalisation Stephen Esley. Merci aux équipes des rendez-vous de l'Histoire de l'Oie et plus particulièrement à Daniel Chemoul. Pour réécouter cette émission et retrouver plus d'infos sur nos invités, RFI.fr ou encore mieux, les applis mobiles mais gratuites de RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Esquel, que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI. La radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
France 24.